Bienvenue dans notre nouvelle émission, format d'enquête. Cette semaine, nous avons tapé fort. Nous sommes allés enquêter pendant plusieurs mois en immersion totale sur un territoire très particulier. Val-en-Béliard, un micro-pays majeur qui garde le silence depuis des dizaines d'années sur son univers atypique. Ce qui s'y passe va en faire frissonner plus d'un. En effet, cette nation indépendante des États-Unis, depuis environ 40 ans, est longtemps restée un pays très pauvre, notamment à cause de ses récoltes peu convaincantes et de son inactivité pétrolière. Rien ne laissait supposer qu'il deviendrait un jour l'un des micro-pays les plus riches du monde. Vous êtes bien installés ? Alors écoutez ce que nos reporters spéciaux ont rapporté de leur étonnant voyage.
Bonjour, nous débutons notre périple au cœur de Val-en-Béliard, dans la chaleureuse contrée de Carnac où la température moyenne est de 15 degrés. Répartie en 6 régions avec au centre la montagne du lac Salagou, cette montagne est connue pour son fameux temple ornant la crête de la montagne. Cette contrée est également connue pour 4 montagnes entourant la vallée où la température est en moyenne de 8 degrés jour et nuit. Bien qu'il y ait très peu de villes dans cette contrée, ces dernières sont très attractives et riches en comparaison avec la campagne alentour, très pauvre, notamment à cause de populations autochtones dangereuses. Pour les touristes les plus courageux désirant se rendre au temple, il serait possible d'apercevoir des mouvements dans le lac pouvant être assimilés à ceux d'une créature.
Et continuons sans tarder notre périple vers une nouvelle contrée, Ishta, qui fait le bonheur de ses habitants et visiteurs. Le temps et les conditions météorologiques sont idéales. Tous les jours, 30 degrés et grand soleil. Cette contrée mesure 3 millions d'hectares. Tous les animaux sont domestiques. À certains endroits, il neige, ou c'est le désert, ou même la jungle. On y voit des voitures de luxe à 50 000 euros minimum. Le coût de la vie n'est pas le SMIC, car il est de 87 340 euros par mois. C'est dans ce pays que se trouvent toutes les entreprises de marque connues. Il n'y a aucune maison, aucun HLM. Il n'y a que des villas à minimum 100 000 euros. Tous les habitants sont respectueux les uns des autres et le taux de criminalité est à zéro. Nous accueillons Paul, qui va nous raconter son mode de vie.
Depuis que je vis ici, mon mode de vie va largement mieux qu'en France. Avant, j'étais pauvre, j'avais une polo, je mangeais des pâtes tous les jours et je vivais dans un HLM. Maintenant, je roule en Lamborghini, je mange ce que je veux et j'habite dans une villa. Je travaille à McDo en tant que caissier et je gagne 150 000 euros par mois. Et les impôts prennent 2% de mon salaire. Venez habiter ici, économisez pour vos billets d'avion, vous ne le regretterez pas.
Et nous avons aussi Paulette pour témoigner aujourd'hui.
Moi, je me suis fait une cabane dans les arbres. Ça fait 20 ans que je ne me suis pas levée et je cherche un métier toute la journée. Je rafraîchis la page de Pôle emploi pour voir s'il n'y a pas un nouveau métier. Mais toujours rien. Je suis obligée de me torcher avec des feuilles. Ça fait 20 ans que j'espère et je n'arrêterai jamais d'espérer.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci Paul et Paulette pour vos témoignages. Au revoir. Partons maintenant vers une région moins montagneuse, au sud, dans la contrée de Le Château. C'est une contrée extrêmement plate, ne comptant d'ailleurs qu'un seul habitant, étant le roi de Le Château, qui a fini seul suite à sa conquête de la région. Le seul lieu notable est Le Château, placé au milieu de la contrée. En résumé, un lieu extrêmement agréable et calme, conseillé aux amateurs de tranquillité. Et poursuivons au sud-ouest, dans la contrée de Leverwood, un lieu extrêmement agréable également, composé en grande partie d'un assemblage d'archipels, composé lui-même d'îles tropicales. Les plus grosses îles, mises à part celles de Leverwood, sont celles d'Atland et de Lilwood. Les lieux notables sont le château de Montauban et sa ville au pied de la montagne Frontignan. Il y fait un climat idéal pour passer des vacances. Au sud-est, nous retrouvons les Terres de l'Est, une région au climat très varié, pour des raisons encore inconnues de nos chercheurs. On y trouve des montagnes, au climat glacial, et le désert de Diurne, une région au sable rouge, très prisée par les amoureux, malgré les températures très élevées de ce milieu en journée.
Nous sommes actuellement dans le désert de Diurne, autrement appelé désert des amoureux. Les amoureux se retrouvent durant la saison chaude, autrement dit, toute l'année. Nous observons de magnifiques spécimens d'amoureux qui se font la cour. Ne sont-ils pas magnifiques ? Mais trêve de contemplation. Nous sommes pas là pour ça, mais bien pour la science et pour l'argent que nous rapporte l'émission. Pour l'instant, ils ne nous ont pas repérés, car ils sont en phase de roucoulage. Mais attention, rien n'est joué pour le spécimen recoulant, car depuis quelque temps, nous observons de nombreux rejets de leurs partenaires se montrant de plus en plus exigeants d'eux, ce qui d'ailleurs pourrait déclencher l'extinction de la race. Pour l'instant, la parade semble fonctionner. Excusez-nous, mais nous devons interrompre la retransmission pour cause de... instinct des deux spécimens. Au revoir, je vous repasse l'antenne.
Très bien, merci pour ce reportage, mais puisque nous avons désormais du temps, découvrons ensemble le reportage Immersion avec Paulette, rencontré plus tôt, qui a bien voulu nous laisser la suivre pour mieux comprendre son quotidien.
Nous sommes donc avec Paulette, qui aborde un mode de vie plutôt particulier, en complète autarcie par rapport au reste de la population de sa belle contrée. Elle nous a invités chez elle, 24 heures dans son quotidien. Nous savons qu'elle vit dans une cabane, de sa confection, dans une folie reculée des populations. Elle cherche éperdument un travail et nous allons aujourd'hui la suivre dans un stage de comptabilité pour éventuellement se faire embaucher.
Mais qu'est-ce que j'y comprends rien, moi, tout ce charabia? Ces feuilles ne rentrent même pas dans l'écran. Et tous ces tableurs?
Effectivement, Paulette n'est pas très dégourdie. Le maître de stage nous explique qu'elle n'a aucune chance d'obtenir ce boulot. Elle a tellement le sang chaud que les ordinateurs ont peur de ses énormes mains, martelant les claviers et écrasant les souris. Les employés n'en croyaient pas leurs yeux. Elle a sauté par la fenêtre, s'accrochant à une gouttière, l'imprimante sous le bras pour changer de bureau. Paulette est donc bien un fléau pour son entourage, nous a dit le chargé de production. Ils ont été obligés de la renvoyer chez elle en lui donnant un salaire pour qu'elle ne fasse plus de mal à personne. En effet, elle a fait une clé de bras au patron pour un « Calmez-vous, je vous trouve un peu tendu, vous devriez essayer le yoga volant. »
Une histoire qui finit donc presque bien pour Paulette. Merci pour ce reportage. Allons maintenant au nord où nous avons la région de la contrée sans nom, composée d'un village de géants. Les principaux lieux notables sont le château de la ville, son phare et un peu plus au sud, ses pyramides. C'est dans ces pyramides que les chercheurs ont retrouvé une légende sur l'ancienne ville de Vampiland, que nous vous lisons tout de suite.
Il était une fois, dans une ville cachée derrière les pyramides, qui se nommait Vampiland, des habitants qui étaient tous des vampires. Ils habitaient dans un grand château, le roi des vampires s'appelait Dracula, tout le monde l'aimait. Les habitants vivaient tous dans l'obscurité, car ils craignaient le soleil, et ils ne se douchaient jamais parce qu'ils craignaient l'eau, mais ils sentaient toujours bon. Ils avaient des super pouvoirs, tous différents. Le seul qu'ils avaient en commun, c'est de pouvoir voler en se transformant en chauve-souris. Dans la chambre de Dracula, il y avait une boule magique. Si on la cassait, le monde des vampires disparaîtrait. Un jour, une petite fille vampire, qui voulait aller vivre dans le monde des mortels, les personnes non vampires, était très énervée car ses parents ne voulaient pas la laisser partir. C'était formellement interdit de quitter Vampiland. Un soir de lune, à l'envers, elle s'introduisit dans la chambre de Dracula et cassa la boule, qu'il ne fallait surtout pas casser. Alors le monde des vampires disparut. C'est pour cela que Vampiland resta une légende. Aucune personne non vampire n'est jamais partie là-bas.
À quelques kilomètres de la contrée sans nom, une de nos reporters est partie en Eswali, région très peu connue par la population puisqu'elle a été découverte il y a seulement 5 ans. Elle est néanmoins très développée au niveau technologique et sa population est très ouverte d'esprit. L'équipe est sur place.
Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 février. En arrivant en Eswali, une grande femme nous accueillit avec un grand sourire. Elle nous a dit de poser nos affaires dans la voiture. Après avoir posé nos affaires, la voiture s'envola jusqu'à notre hôtel. La femme nous demanda de rentrer dans le portail devant nous pour arriver dans notre chambre d'hôtel. La sensation fut très bizarre. Je suis ensuite sortie faire une petite excursion en ville pendant que mes collègues étaient en train de se reposer de ce long voyage. Tout. Il y avait tout. En arrivant dans la ville, il y avait un panneau qui indiquait plusieurs directions. En tournant la tête, je vis que chaque flèche du panneau indiquait des contrées et villes différentes. Il y en avait une qui indiquait l'Égypte, une autre qui pointait le pôle Nord, etc. L'endroit qui attirait le plus mon regard était la ville. Je pouvais apercevoir de là où j'étais des voitures volantes et de grands bâtiments. Cette ville était la capitale. Une fois arrivée là-bas, je fus étonnée de voir que tout le monde se connaissait. Je me suis alors dit que j'allais interviewer quelques personnes. Voici l'interview la plus intéressante. Bonjour madame.
Bonjour.
Je suis une journaliste française et j'aimerais vous poser quelques questions.
Oui, pas de problème, j'ai tout mon temps.
Êtes-vous née en Eswali? Et sinon, comment avez-vous connu ce pays? Quel est votre ressenti? Êtes-vous au courant que votre pays est très différent des autres endroits du monde ?
Je suis canadienne et j'ai découvert ce pays lors d'une excursion en bateau. Je suis arrivée ici à peu près 6 mois et je suis comblée par ce pays. Il est certainement très différent des autres, mais il est beaucoup mieux.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Premièrement, tout le monde a l'esprit très ouvert et tout le monde est très poli et gentil. Il n'y a aucun acte criminel depuis que ce pays existe. C'est d'ailleurs pour ça que les prisons n'existent pas ici. Deuxièmement, toute cette technologie avancée facilite énormément la vie. Tout est si simple. En plus, le reste des habitants et moi-même n'avons plus besoin de voyager car nous avons tous le plus beau pays regroupé en un seul pays.
Après cette interview très intéressante, j'ai appelé le reste de l'équipe et leur ai dit de me rejoindre avec nos affaires pour faire un road trip dans les différentes villes de ce pays. Nous avons fait notre petit voyage durant une semaine avant de rentrer en France. C'était vraiment très impressionnant. Nos collègues français n'en croyaient pas leurs oreilles. Ce fut difficile de se réhabituer à la France après ce voyage. Je vous conseille très fortement de vous y rendre.
Et pour terminer cette émission, nous vous partageons une petite chronique bonus sur la région de Kipita, autrement appelée Zinzinland par la jeunesse en présence. Bonne fin de voyage à tous.
Bienvenue à Ekipita, sur cette île éloignée de Valambéliard, où vivent moins de 500 000 habitants. Les gens ici semblent heureux et épanouis. Nous avons d'ailleurs interviewé l'un d'eux. Eh ben, écoutez, ici, nous vivons en harmonie avec l'univers et la Terre. Nous nous sentons tous en sécurité et nous avons la chance de pouvoir rencontrer des êtres formidables qui nous portent et nous permettent de comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. D'ailleurs, je dois vous laisser. Je vais à mon cours de yoga volant. Son départ fut si soudain que nous n'avons pas eu le temps de lui demander en quoi consistait cette activité. Quoi qu'il en soit, ici, tout le monde s'accepte sans prendre en compte les différences de chacun. Le peuple est uni, solidaire et surtout bienveillant. Pour preuve, la devise est acceptation, respect et paix. Mais alors, me diriez-vous, en quoi consiste ce fameux empire dont vous parlez plus haut ? Tout semble si parfait, qu'est-ce qui pourrait faire tâche à le mage de Kipita ? La réponse, vous pouvez la trouver dans les hôtels, sur les plages, sur les parkings. Car en effet, de drôles de bonhommes se regroupent dans ces endroits. Leur physique n'est pas très atypique, mais leur manière de se comporter en société l'est. On les reconnaît en premier lieu grâce à leur manière. Et puis, si vous vous rapprochez d'un peu plus près, vous les verrez faire léviter des objets, s'intéresser à des choses banales et surtout faire des choses très étranges. Pour preuve, nous avons retrouvé un premier groupe durant notre enquête devant un garage. Certains s'étaient attroupés autour d'une voiture et essayaient de monter à l'intérieur en cassant les vitres, pendant que divers d'entre eux poussaient derrière la voiture pour la faire rouler sur plusieurs mètres. D'autres tenaient des outils dans les mains et tapaient un peu partout avec, essayant certainement de comprendre comment cela fonctionne. Mais encore, le deuxième groupe fut plus inventif. Ils s'étaient tous réunis dans une boutique de cosmétiques. Ils s'amusaient à se maquiller entre eux. Certains se peignaient avec des brosses à dents, d'autres buvaient des bouteilles de parfum en entier et plusieurs d'entre eux appliquaient sur toute leur peau de grosses couches de crème anti-rides. Le plus surprenant reste que personne autour d'eux n'y accorde de l'attention. Comme si nous étions les seuls, moi et mon équipe, à voir ces étranges bonhommes se balader dans les rues de la ville. Nous avons pu interviewer la jeunesse de Zinzinland, comme ils l'aiment l'appeler.
Bonjour, que faites-vous ici ?
Aujourd'hui, je suis partie voir des zinzins policiers. Nous sommes allés au lac pour parler sécurité.
Pourquoi sécurité ? Pourquoi en parler ?
Parce qu'à Zinzinland, on pète tous les plombs.
Ah bon ? Vous avez des exemples ?
Genre, t'as pas vu la semaine dernière un bébé qui courait derrière un dragon pour rigoler avec ? T'as pas vu le braquage qui a eu lieu avec des braqueurs qui pouvaient voler de l'argent mais qui sont repartis avec des épluchures de pommes de terre ?
Je n'ai jamais vu une société comme ça.
Tu veux qu'on parle du système scolaire à Zinzinland ?
Oui, explique-moi.
T'as déjà entendu parler des élèves qu'on qualifie de flemmards, de cassos, qui n'en font pas une ?
Les décrocheurs ?
À Zinzinland, ce sont les profs qui décrochent.
Mais quelle galère ! Comment est-ce possible ?
C'est les décrocheurs scolaires qui font ça, qui font cours à ces bacs plus 5.
Drôle d'ambiance. Et comment ça se passe ?
Le prof de français qui n'arrive pas à parler en wesh-wesh, langage des jeunes, et qui s'élève constamment. La punition est de le coller sur sa chaise avec de la colle et lui dire « bah vas-y, lève-toi ». Et les profs de maths, d'espagnol et de sport qui ont la flemme de se lever, qui ont froid, qui sèchent les cours, traînent dans les couloirs, etc. Qui éclatent de rire, devinent ce qu'on leur fait. Heure de colle plus conseil de discipline.
Cette plongée dans Eukipita / Zinzinland laisse songeur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous espérons vous avoir donné envie de visiter ce pays hors du commun. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. À la semaine prochaine pour un nouveau reportage hors du commun.